30 minutes chrono, l'émission sportive du samedi sur Divergence FM en 30 minutes chrono. Alors, c'est déjà la troisième émission donc de 30 minutes chrono. Alors, je vous fais un petit sommaire rapidement. On va commencer comme d'habitude par cette chronique de la Babale Carrée. Alors, cette semaine, la chronique est consacrée à la sulfureuse liaison présumée entre l'Olympique de Marseille et le milieu du grand banditisme. Réalité ou fantasme ? Ensuite, je suis très content d'avoir un invité. Alors, bonjour d'abord.
Bonjour.
Voilà, alors dans 30 minutes chrono, on recevra Stéphane Brun pour nous parler du club de Montpellier Tennis de Table. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Je ne me suis pas trompé.
Stéphane Lebrun.
Voilà, je ne me suis pas trompé, c'est déjà quelque chose. C'est Brun, c'est pas Lebrun.
Lebrun.
Voilà, vous voyez, on peut faire des erreurs. Hein. Alors, c'est une petite balle ronde et des raquettes autour d'une table, bien sûr. Ça va du baby pong aux sections compétition en passant par le loisir. Il y a de quoi dire sur ce sport. On y reviendra quand on vous interviewera dans la deuxième partie de cette émission.
D'accord.
Enfin, quelques résultats, choses, quelques mots de nos surdoués de l'agglomération, vous savez, ceux qui font vivre cette ville très sportive. Chronique de la Babale Carrée. Alors tout d'abord, vous avez reconnu la musique du Parrain avec Al Pacino, Marlon Brando, ah quel bon film. Après avoir fait un tour dans le marché des transferts et constaté les dérives du mercato, ses incohérences, le fric nous avait amené à nous pencher sur les diffuseurs d'événements, vous savez, avec les droits télé. Pour la troisième chronique de la Babale Carrée, ce sera peut-être encore plus inquiétant. Toujours en remerciant le quotidien L'Équipe pour une partie des informations contenues dans cette chronique d'ailleurs. Allons faire un tour au pied de la Bonne Mer, dans les coulisses de l'OM, voire dans les sous-sols fréquentés par de curieux et sulfureux personnages. Tout d'abord, l'OM est plus qu'un club, comme on le dirait en catalogue pour le Barça. L'OM est un symbole de la ville, une part de l'identité phocéenne. Le club fédère souvent toute une ville, quelle que soit l'origine des joueurs et la classe sociale de ses supporters. L'OM, c'est le Napoli français. Ah ben justement, à Naples, les ombres planent sur le foot local, alors à l'OM aussi ? Au début septembre, un fait divers se déroule. Il s'agit de l'assassinat d'un jeune homme prénommé Adrien, tué par balle. Hélas, rien de que plus banal du côté du Vieux-Port ou de la périphérie nord de la ville. Pourtant, son nom de famille, Anigo, ramènera sur le tapis, si j'ose dire, les suppositions, les présomptions et les fantasmes liés à la présence du grand banditisme autour du club. José Anigo est en effet le directeur sportif de l'OM, dont le siège du club a été perquisitionné en janvier dernier dans le cadre d'une enquête sur les liens supposés entre ce club et le milieu marseillais. Anigo, le père, affirme que cette enquête est la meilleure chose qui pouvait lui arriver pour enfin faire taire les rumeurs. Nous le croyons en respectant la présomption d'innocence. Tout à sa douleur de père, il aimerait bien que l'on ne n'amalgame pas avec les fréquentations de son fils le club, condamné entre autres pour braquage ou encore sous le coup d'un renvoi aux assises pour le mois de mars prochain auquel, bien sûr, il ne pourra pas se présenter. Pourtant, en présumant José innocent de tout dérapage avec les truands, un rapide historique des grands bandits qui ont gravité autour du club laisse rêveur. Comme s'interrogeait Frédéric Vézard dans l'équipe datée du vendredi 13 septembre, peut-on diriger l'OM sans faire allégeance au milieu marseillais? Point d'interrogation. Un rapide historique de l'histoire mêlée de l'OM et des parrains locaux laisse dubitatif. Les parrains locaux, comme les politiques, ont compris depuis des lustres que pour tenir la ville, il est un lieu incontournable, le stade Vélodrome. Connaissez-vous le fameux Francis le Belge? Ce Marseillais pure souche, il n'est pas belge, mais bien truand, il fut entre autres impliqué dans la French Connection dans les années 80. Il devint le caïd, ou du moins l'un des caïds de la pègre locale. Il fréquenta beaucoup Bernard Tapie, de près. Celui-ci interviendra pour obtenir sa libération conditionnelle quand Nanar était président du club et héros de Marseille avec sa Coupe des Champions. Il était aussi ministre de François Mitterrand. Francis finit assassiné pendant l'année 2000. À noter que pour son enterrement, deux anciens footeux portaient le cercueil. L'ère Tapie se finit en eau de boudin, en un match truqué. Place au nouveau sauveur, Robert Louis Dreyfus. Il apparaît plus discrètement à ses côtés un certain Roland Cassonnet, une figure du milieu marseillais qui rencontre RLD, qui n'arrive pas à pacifier les virages de supporters. Cassonnet, lui, il y arrive. Nous sommes en 2002. Rien n'est prouvé, donc j'emploie le conditionnel. Mais du liquide par million aurait circulé vers Roland, le discret. D'autre part, RDL a fait embaucher la fille de ce monsieur par le principal sponsor de l'époque. Mais cela, c'est plus habituel. Plus on avance dans le temps et plus les parrains se font plus jeunes et moins, disons, folkloriques. Le 20 juillet 2012, un certain Roland Gabin est abattu dans la cité phocéenne, un de plus. Il était le président de l'association Marseille Tout-Puissant. Sa veuve continue de présider cette association. Il était fiché au grand banditisme, condamné pour des broutilles, braquage, raquettes, trafic de stupéfiants. C'est un proche de Cassonnet. Il se disait le parrain du Panier. Le Panier, c'est un quartier du côté du Vieux-Port. Enfin, mais la liste est loin d'être complète, Bernard Baresi, rien à voir avec le défenseur de la C-Milan, ancien rival du grand OM des Moser, Boli, Papin, Waddle et compagnie. Bernard, lui, assurait pendant longtemps la sécurité après un joli braquage d'un fourgon en 90, dont le butin n'a jamais été retrouvé. Il ressurgit à la fin de ces années 90 avec une société de gardiennage, Alba Sécurité, chargée par l'OM pendant 15 ans de l'accès à la commanderie, le centre d'entraînement de l'OM. Mais le passé, et probablement le présent, rattrape Baresi et il est arrêté en 2010. La nouvelle direction ne renouvelle pas le contrat avec sa société. Alors, en conclusion, fantasme? Vraiment les rapports entre l'OM et le grand banditisme? Bon courage à Margarita, la veuve de RDL, et à Vincent Labrume, le président actuel. Cela ne va pas être très simple de faire le ménage dans les vestiaires de ce club.
Please call the home. times, hard times. Hard times seem like it's yet to stay. Hard times, hard times. Hard times seem like it's yet to stay. If somebody don't help me, and I just can't be around free much long. No shoes on my feet, and no food go on my table. Oh no, too sad. Trying for bread.
Supporter, quel métier? Alors là, c'est pas supporter, c'est l'invité. Mais c'est la même chose, vous êtes quand même supporter de votre sport, je suppose. On va vous présenter rapidement. Alors tout à l'heure, je me suis désolé, je vous ai écorché votre nom.
C'est pas grave.
Hein, vous savez, c'est pour, à cause de, peut-être de Marseille, c'est Monsieur Brun.
Monsieur Brun,
ouais. Ah ouais, c'est voilà. Pour ça, vous voyez, j'étais déjà dans ma chronique de l'OM là.
De l'OM.
Ouais, donc c'est Monsieur Lebrun.
Lebrun, ouais.
Voilà, et donc vous représentez le Montpellier Tennis de Table.
Le Montpellier Tennis de Table, oui.
Voilà, en quelques mots, vous pouvez nous présenter cette association, parce que c'est une association.
Oui, c'est une association donc, qui a quelques années maintenant.
Je crois 1976.
C'est cela, oui. Donc, juste en quelques mots, on a été plusieurs fois champion de France en filles. C'est une grosse association avec plusieurs fois champion de France, comme je dis, en filles.
Excusez-moi, oui. Je crois qu'en 2008, c'est le dernier titre, hein, c'est ça?
Oui, 2008, le dernier titre. On a été également vainqueur de Coupe d'Europe. Le premier club montpellierain à gagner la Coupe d'Europe, c'était en 2002. Et ensuite, on a regagné en 2001-2003, pardon. Et,
donc, un passé glorieux. On va dire.
Passé glorieux, mais le présent est plutôt pas mal également. Et puis ben, j'espère que le futur sera encore mieux.
Alors, en présentant cette association, il faut bien expliquer aux auditeurs que ce n'est pas que la compétition, ce n'est pas que les champions d'Europe. Hein. Ça peut aller des tout petits aux personnes plus âgées.
Bien entendu, le ping-pong, on a cette chance-là. Je dis le ping-pong parce que nous, on utilise ce terme-là. On utilise très rarement tennis de table.
Vous me faites plaisir parce que je me suis fait reprendre déjà deux ou trois fois par des gens qui me disent « Mais on dit plus ping-pong, t'es un vieux, toi. On dit tennis de table. » Eh bien, on dit ping-pong, je suis très content.
On dit ping-pong. Même pour j'ai fait partie quelques des meilleurs joueurs français et on dit entre nous ping-pong. Ouais. Voilà, donc le ping, on a cette chance-là, c'est un sport de 3 ans jusqu'à 77, voire même plus. Il y a des joueurs qui ont 90, 95 ans et qui continuent à toucher la balle. Voilà, donc c'est...
sport de loisir.
Sport de loisir et sport de compétition. On a cette chance de pouvoir être les deux. Et évidemment, le club Montpellier Tennis de Table fait tout ce qui est possible pour accueillir ces gens-là. Voilà.
Et donc, les tout petits, là, ce qu'on appelle le baby pong, ça commence à quel âge?
On l'appelle le baby ping, nous.
Ping.
Mais c'est pas mal, baby pong, je vais peut-être le réutiliser.
Vous voyez,
voilà, comme quoi.
Je fais vraiment tout le genre des fautes, moi.
Non, c'est pas une faute parce que de toute façon, baby ping ou baby pong, c'est la même chose.
C'est pas mal le baby pong.
Et ça paraît pas mal, on peut peut-être l'utiliser. Je vais vous prendre vos mots. Voilà. Alors, oui, on a du baby ping le mercredi matin de 10 à midi. C'est entre 3 4 ans, 4 ans, moyenne section de maternelle, jusqu'à 6. Et ensuite, on passe 6-7 ans et ensuite, on passe dans les groupes de jeunes qu'on appelle les groupes de jeunes un peu plus anciens. Voilà. Et les vieux, on va dire, de 7 à 10 ans.
Ah ouais, ça c'est vraiment déjà les vieux, vous avez raison. Et en quelques mots aussi, j'aimerais bien, pour les auditeurs et pour moi-même, qu'on me rappelle un peu les règles. Parce que quand on jouait, moi j'ai un certain âge, donc à mon époque, vous étiez en 21 points, tout ça. Maintenant, je crois que ça a un peu changé. Est-ce que vous pouvez nous le dire?
Ça a beaucoup évolué. Ouais. Dans les années 2000, en fait, on était, comme vous l'avez dit, en 21 points, 5 services chacun. Et voilà. Puis, comme beaucoup de sports, on essaie de faire évoluer un petit peu les règles pour que ça puisse rentrer dans moins de temps, parce que c'était un petit peu long, que ça soit un peu plus sympa. Et donc maintenant...
Peut-être, excusez-moi, au niveau télévision, c'est peut-être plus... ça va plus vite pour les Jeux Olympiques, des choses comme ça, peut-être.
Ça va plus vite. C'était aussi une des raisons, mais ce n'est pas la seule raison. Je pense que, comme tout sport, il y a besoin d'évoluer. Le foot n'évolue pas trop, on a parlé d'Amérique, mais c'est le seul sport qui peut se permettre ça, peut-être. Les autres, finalement, on s'aperçoit que les règles évoluent dans le temps. Et nous, nous sommes passés en 11 points. Oui. 2 services chacun, 3 sets gagnants pour les plus jeunes, 4 sets gagnants pour les seniors.
D'accord. Et toujours 2 points de différence ?
Toujours 2 points de différence à la,
ça,
fin. Voilà.
À la fin. Il faut qu'il y ait quand même...
Il faut 12 points de différence. Ouais. Ouais, il faut 12.
Ça, je trouve que c'est une très bonne règle. C'est une très bonne règle parce que se faire battre 11-10, c'était quand même un peu terrible.
Oui, hein. Et puis c'est une très bonne règle aussi d'avoir raccourci parce que c'est vrai qu'il y avait un petit round d'observation qu'on appelait ça quand on était à 21. Et maintenant, en fait, tous les points sont importants. Ouais. Quand on, évidemment, on réduit le nombre de points, évidemment, les points deviennent beaucoup plus importants et il y a beaucoup plus de stress très rapidement. Et c'est ce que le public aime.
Ouais. Et avant, il y avait des matchs interminables, j'imagine, des 28-26.
Oui, et puis on a aussi mis une règle d'expédite, ce qu'on appelle l'expédite, c'est-à-dire une règle, si jamais le set n'a plus de 10 minutes, on passe à l'expédite et c'est essayer de marquer le point en moins de 13 coups. Pour justement raccourcir, il y a quelques années, mais alors là je parle il y a 50 ans, oui. Bon, on pouvait faire des matchs de 8h, 9h, 10h.
Voilà. Oh là là. Contrairement aux apparences aussi, c'est très fatigant comme sport, hein, parce que ça demande beaucoup de déplacements rapides.
Alors on est un petit peu dans un registre de vitesse. Alors évidemment, c'est pour ça que c'est intéressant comme sport. C'est plus on augmente de niveau, plus le niveau augmente, plus on a besoin en fait de physique. Mais très vite, on peut commencer à s'amuser autour d'une table sans forcément avoir une activité physique énorme. Non. Par contre, c'est vrai que si on veut, ça demande énormément d'investissement. Pour être au haut niveau, il faut vraiment s'entraîner énormément. On se rapproche des caractéristiques des gymnastes en termes de volume horaire.
Voilà, c'est ça. Et puis, peut-être le squash ? Il y a quelque chose au squash ?
Il y a aussi le squash. Bah, c'est un sport de raquette, donc le squash, évidemment, il y a la rapidité. Ça se rapproche, c'est vrai, plus du squash que finalement du tennis.
Que du tennis.
Ouais. Parce que c'est vrai que le tennis est plutôt un sport résistant, avec en endurance. Nous, on a beaucoup besoin de vitesse, tout simplement, de vitesse. La table, elle est courte et la balle va très, très vite, à peu près 150 km/h.
Voilà, c'est ça. J'allais vous poser cette question, ça va très, très vite. Et la vista, donc le coup d'œil, le coup de poignet aussi.
On parle beaucoup de mains, nous. On parle beaucoup, la raquette, c'est un petit peu un stylo. C'est ce qui nous permet d'écrire, en fait, sur la table. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de vitesse et d'adresse, voilà.
Alors pour revenir à Montpellier Tennis de Table, vous avez un centre de formation aussi, hein. Ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est situé près du stade Philippides, c'est ça ?
C'est situé l'arrêt de tram stade Philippides, un place Marcel Gauthier, c'est la salle Achille. Vraiment on s'arrête et on est devant la salle, donc c'est bien pratique. Et oui, nous avons un centre de formation qui fonctionne depuis des années. On est en train d'essayer de le remonter, de faire en sorte qu'il soit encore plus performant. Et c'est vrai que nous avons, ça va de 7 ans, on va dire, 7-8 ans, parce qu'on prend des jeunes assez tôt. Alors évidemment, c'est pas dans la structure
sport-études,
puisque c'est pas possible, mais par contre, on les prend assez tôt et on les repère. Et ensuite, on les emmène jusqu'à 18, 19, 20 ans. Et puis, tant mieux s'ils sont ensuite sportifs de haut niveau.
Voilà. Et votre équipe première masculine, je crois que vous avez Olivier Ouazana dans l'équipe et Julien Maillet. Il y en a certainement d'autres.
Julien Maillet, oui.
Que j'ai repéré.
Julien Maillet, qui est un des symboles du club, puisque ça fait vraiment des années. Lui, il est débuté au club, vraiment. Son père est monsieur Richard Maillet, qui est président du cross. Donc, figure montpelliéraine, du sport.
De l'agglomération.
De l'agglomération. Et c'est vrai qu'on a recruté un jeune joueur, Nolwenn Brosson, là, qui fait partie des espoirs français. C'est une équipe de National 1, ça correspond en fait à la 3e division, il y a Pro A, Pro B, National 1.
Ouais, décembre.
Et pour l'instant, le club vise le maintien. C'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu...
Pour donner une idée aux auditeurs, ce sont des joueurs qui sont classés vers les places 150, 200
Oui, avec les joueurs étrangers, parce que les joueurs étrangers rentrent dans le classement national.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'ils jouent tous dans les 100 meilleurs français.
Dans les 100 meilleurs français.
Voilà.
Donc c'est quand même déjà un super, super niveau. Là,
c'est
là.
Déjà un très bon niveau. Ouais. Voilà, c'est juste l'antichambre
de
des pros. Voilà, des pros. Et donc on est à ce moment-là.
Et la section féminine, donc, qui a été la glorieuse section féminine, elle repart.
Repart également avec une équipe en pré-national. Donc là, c'est plutôt un niveau, on va dire, entre la nationale et la régionale. Elle repart. C'est un peu compliqué. En tennis de table, malheureusement, on n'a que 14% de licenciés, 14 à 17%. Ouais. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Pourtant, c'est un sport qui est complètement adapté aux caractéristiques féminines. On a eu, ça a été la grande époque.
On avait des Chinoises, je crois, même.
Oui, mais pas que des Chinoises. On a eu des Bulgares. Ouais, on a eu un peu de toutes les nationalités, mais surtout françaises. Et beaucoup de jeunes joueuses. Laurie Faipan qui est sortie, qui a été en équipe de France. Anne Boileau qui a été championne de France des années, qui est sortie de Montpellier. Et puis, l'agglomération a préféré aller voir un autre sport également et soutenir. Et c'est une question, évidemment, même si c'est pas que ça, c'est une question financière, évidemment.
C'est une question financière, mais alors là, nous sommes bien d'accord pour les auditeurs, on n'est pas dans les mêmes sommes que dans le football ou dans le rugby.
Non, et je crois pas avoir de parrain à côté.
voilà. Personne derrière vous pour financer de façon occulte.
Non, on n'est pas dans la même. Ouais, non, bon, c'est pas. Bon. Mais par contre, c'est vrai que, comme tous les sports, on a besoin évidemment de financement. Et
vous avez besoin de sponsors aussi, je suppose.
De sponsors, mais c'est compliqué également, tennis de table. Alors, en France, c'est compliqué. C'est un grand sport, en fait. C'est vrai que j'ai souvent tendance à expliquer cela. C'est, en Asie, c'est énorme.
On est
le sport...
numéro un en Chine. Hein.
Ben voilà, numéro un en Chine. Il y a eu une étude de fait, le cinquième sport le plus populaire au monde.
Avec les Coréens, avec les Japonais.
Ça passe à la télé, ça passe partout. Ouais. Et en Europe, en Allemagne, c'est quand même assez... il y a plus d'un million de licenciés en Allemagne, donc
Suède
c'est pas
aussi,
rien. En Suède, il y a très peu de licenciés, mais ils sont très très forts. Voilà.
Mais c'était ce que je me rappelle, moi, de
ils
mon
ont une
époque,
culture pongiste. Voilà, mais ils avaient...
France-Suède qui était quand même...
Voilà, c'était les deux nations les plus fortes au niveau européen. On a... Voilà, en France, on a quand même 200 000 licenciés, c'est pas rien, c'est une fédération qui est entre la 10e et la 11e en termes de licenciés, et on dit à peu près 4 millions de pratiquants. Donc le tennis de table, c'est... Voilà,
c'est pas marginal du tout.
Non,
voilà, du tout,
mais tout le monde a déjà joué au ping-pong, donc
voilà,
on a cette chance-là. Je pense que vraiment, il faut qu'on s'oriente là-dessus et qu'on aille chercher en fait, les sponsors, le financement par rapport à ça, plus que sur le haut niveau finalement, parce que on est un sport qui est adapté à tous.
Voilà. Et puis vous représentez aussi la ville de Montpellier, l'agglomération, donc tout ça, ça mérite d'être soutenu.
Bien entendu, mais attention, on a été vraiment soutenu. Je pense qu'on a renouvelé le défi. En fait, on a participé un petit peu, comme j'ai dit, en gagnant la Coupe d'Europe, un petit peu à l'essor de la ville à un moment donné, puisqu'on a été le premier club avant le Montpellier Handball.
La surdouée, comme on disait.
Voilà, donc maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un changement un petit peu là-dessus. On reste quand même soutenu par la ville de Montpellier, plus par l'agglomération, puisque nous sommes plus professionnels, mais... c'est sûr que si on pouvait l'être un peu plus et si des gens pouvaient venir nous aider également, on en serait très content.
Écoutez, je vous remercie d'être venu. On va écouter une petite extrait musical que vous avez choisi, puis après on se reparle une petite seconde. Hein. Alors, on va écouter le lancer du CD. Alors, c'était un choix de notre invité. On va lui demander si c'est possible pour nous dire pourquoi il a choisi ce CD.
Tout simplement, j'ai 4 enfants, dont une qui est opérée plusieurs fois à cœur ouvert. Donc forcément, le don d'organes, je suis sensibilisé. J'aimerais qu'on sensibilise, on n'est jamais assez sensibilisé, qu'on puisse réfléchir à cela, tout simplement.
Elle était opérée à Montpellier ?
Non, à Paris. Non, on monte justement dans 15 jours de nouveau. Elle a besoin d'une intervention. Voilà, donc c'est tout simplement pour ça et pour faire un petit clin d'œil à ma fille Roxane. Voilà,
écoutez, en tout cas, on était ravis de vous recevoir. Vous étiez vous-même sportif de haut niveau il y a quelques années.
J'ai été, oui. Mais j'ai été sportif de haut niveau en équipe de France B, on va dire. Ouais. J'étais entre 5 et 8.
Ah, oui,
et, mais c'était la génération Gatien, donc la génération forte.
Là, ils étaient doués. Là, ceux-là.
Les quatre premiers étaient doués. Je suis toujours en... Bon, je joue toujours un petit peu.
Ouais, je m'en doute.
Ouais. J'ai participé évidemment à toutes les épopées Montpellier-Rennes, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Championnat de France.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. On va terminer l'émission par quelques petits résultats rapides.
Quelques résultats de nos surdoués valeureux de l'aglo multivitaminé.
Alors dans cette rubrique, des fois ça sera court, des fois ça sera plus long, alors aujourd'hui on va faire court. Alors au foot féminin, de nouvelles de nos filles qui ont bien commencé le championnat de Division 1, 2 matchs de victoire. La semaine dernière, Iseuse en a pris 4, avec un doublé de notre Zlatan locale, Montpellier-Rennes, la suédoise Oxvist. Je ne sais pas prononcer son mot, elle m'excusera. Et bonne route à ces filles. Toujours en football, mais pour le troisième tour de la Coupe de France, la tant convoitée vieille dame. Le week-end dernier, quelques surdoués de notre aglo ont frappé assez fort. Le petit bar s'est imposé dans l'Aude à Castelnaudary, malgré une division d'écart entre les deux équipes. Alors vivement quelques tours pour espérer un sulfureux petit bar versus la paillade. Ça serait pas mal ça. Castelnau-Lecrès, lui, a passé aussi, ainsi que Bayargues. C'est fini pour Latte, battu par Paulan Pézenas, c'est pas très loin. Oraglo, mais pas très loin non plus, Saint-André-de-Sangonis continue sa route. Dans plein de sports, le championnat démarre. Alors donc, j'aimerais vous communiquer plein de résultats, mais on fera ça progressivement dans cette émission qui se met en place. Cette émission prend forme et laissons-lui un peu de temps pour trouver un rythme, ou plutôt ses changements de rythme. Alors pour cette émission d'aujourd'hui, je voudrais simplement vous citer quelques échéances, on va dire. Par exemple, au basketball, nos filles, toujours nos filles, on en a des filles douées dans l'agglomération, hein, elles vont se rendre à Saint-Étienne pour la Coupe de France en 16e de finale. Ce sera le 16 octobre. Nos garçons du handball dont j'avais parlé, vous avez des quelques déboires qu'ils ont eu, des joueurs qui avaient été suspendus puis repris, ben ça y est, ils sont repris, ça va pas mal, ils vont à Dijon ce samedi 21 septembre à 20h30, ils vont aller voir du côté de la Bourgogne qu'est-ce qui s'y passe. Alors là, ça n'a rien à voir avec notre aglo, mais c'est un petit souvenir, une séquence, on va dire, un peu nostalgique. C'était à la fin du mois de septembre 1988, à peu près jour pour jour, aujourd'hui 21 septembre. Un sprinter arrivait, l'index levé, il venait de franchir la ligne d'arrivée d'un 100 mètres qui semblait inoubliable. Il établissait un nouveau record du monde, 9,79. Vous vous rendez compte, nous sommes en 1998. Et loin derrière lui, il y avait Carl Lewis en 9,92, Linford Christie en 97 et Calvin Smith en 99. Somptueux le 100 mètres, somptueux sauf qu'il s'appelait Ben Johnson. Et après, vous vous rappelez le scandale que ça a entraîné avec sa condamnation, son éviction de Séoul. Et on avait changé les médailles et c'est donc Carl Lewis qui devient champion olympique. Mais pour un prix, combien sont passés à travers les mailles du filet? La semaine prochaine, j'aurai un autre invité. Alors, comme je sais de qui il s'agit, je vais vous le présenter rapidement. Alors, il s'agira aussi de balles. Il s'agira aussi de filets. Mais ce ne sera pas tout à fait la même taille. En fait, juste une petite seconde avec mon invité, ça pèse combien une balle de tennis de table?
2,8 grammes, 3 grammes, voilà. On a mis une balle un peu plus grosse.
Voilà, alors donc nous, ça sera une grosse balle, ronde, bien ronde, un filet. Mais la particularité de ce sport, c'est qu'on a les pieds dans le sable. Alors vous avez compris de qui il s'agit. Alors c'est le beach volley, bien sûr, et j'aurai le plaisir d'accueillir Rodolphe Perriot, le directeur sportif du Montpellier Beach Volley. Lui, il doit rêver, je suppose, de Rio de Janeiro, du Brésil, parce que le Brésil, c'est aussi le pays du sable et du volley.
Yeah!
30 minutes chrono, l'émission sportive du samedi sur Divergence FM en 30 minutes chrono.